Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur le sujet. C'est quoi le sujet? Non, je connais mon sujet, je vous assure. C'est le... Pardon. Le corps sous contrainte ou l'esprit sous contrôle? Les religions, le corps sous contrainte et l'esprit sous contrôle. C'est l'intitulé exact que je cherchais. Merci, oui, sur l'écran, effectivement. Avec moi, j'ai M. Philippe Curval et M. Pierre Bordage, auteurs de science-fiction dont je ne ferai pas la bibliographie parce que sinon on est toujours là demain. pour nous parler de ce sujet, le troisième intervenant étant malheureusement absent. Donc pour commencer, j'aimerais vous poser la question suivante. C'est, à titre personnel, par rapport à la religion, comment vous situez-vous ?
Bon, actuellement, je suis totalement athée. Mais enfin, il faut bien dire qu'après avoir fait un nombre considérable d'écoles religieuses au cours de ma jeunesse, donc j'ai été formé par les jésuites. J'ai une espèce de background jésuite derrière moi qui me permet peut-être d'évoquer quelques souvenirs de l'époque.
Mon rapport à la religion, il est complexe. Je suis né en Vendée. Pour certains dans cette salle, ça doit être évoqué quelque chose, je suppose. Donc dans une atmosphère religieuse très présente. Et je me suis retrouvé au séminaire à l'âge de 10 ans. Après avoir des petites crises mystiques comme ça, et on a décrété que je devais devenir prêtre. Et je suis donc allé au séminaire à l'âge de 10 ans. Donc je suis entré en 6e au séminaire. Et au bout de 4 ans, j'en suis sorti totalement dégoûté de la religion parce que je me suis rendu compte que la religion ne servait qu'à faire des petits soldats de la foi et ne tenait aucun compte des aspirations réellement spirituelles. Et donc, de là a commencé tout mon travail sur la distinction entre spiritualité et religion, c'est-à-dire la véritable spiritualité qui conduit, je pense, à une sorte de liberté totale et la religion qui, elle, est une forme d'emprisonnement mental. On pourra peut-être parler tout à l'heure, voilà. Et donc j'ai cherché beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai cherché des réponses un peu partout, dans les spiritualités orientales principalement, et j'ai trouvé des pistes d'exploration, parce que ça m'intéresse toujours de continuer à explorer la voie spirituelle, dégager des dogmes religieux.
D'accord. Donc tous les deux, finalement, vous avez... vécu la contrainte religieuse. Donc on sait que les religions demandent en permanence à leurs servants, aux gens qui les suivent, un certain nombre de choses. On doit prier tant de fois par jour, on doit s'habiller de telle ou telle manière, on doit manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. Comment est-ce que ce type de contrainte, finalement, modèle les petits soldats dont vous parliez?
Je crois que les choses ont beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies et que la religion que je connais, donc la religion catholique, a beaucoup changé par rapport à ce qu'elle a pu être autrefois sur la pression qu'elle exerçait. Bon, elle exerce toujours une pression sur les gens qui actuellement sont encore sous la domination de la foi, mais il faut bien dire quand même que beaucoup de choses sont allégées. Mais finalement, au lieu de dire des banalités, si vous voulez, sur la pression sur le corps, donc déjà, puisqu'on absorbe le corps du Christ et qu'on est censé donc être transfiguré par lui, et surtout la pression sur la pensée, parce que finalement, une des choses les pires qui ait pu exister pour moi dans ma jeunesse, c'était quand même la confession. Parce qu'il y avait cette espèce de folie des prêtres, d'une manière générale, de vous faire avouer des choses abominables que vous auriez réalisées. Et si vous voulez, le péché mortel qui a évolué un peu dans le temps a été à l'époque surtout la masturbation Et il y avait une espèce d'intoxication permanente de la part des prêtres lors des confessions pour vous faire avouer combien de fois vous êtes masturbé par jour, quels résultats ça donnait, et des punitions absolument épouvantables qui consistaient à réciter 40 Ave Maria et 17 notre pardonnez-nous nos offenses. Donc c'était absolument ridicule. Et finalement, c'est ce qui m'a amené... Parce que, évidemment, comme tout enfant, je me suis masturbé, et je pense que, de toute façon, 90% de la population le fait. Donc, je ne vois pas pourquoi il y avait cette espèce de folie de la part des prêtres de vous acculer dans vos derniers retranchements. Je m'en suis ressorti, d'ailleurs, dans ma dernière confession, j'avais lu que parmi les péchés mortels les pires, il y en avait un qui était très rare. Et donc, lorsque j'ai été mis à la porte la dernière fois... d'un collège de jésuites, j'ai dit, écoutez mon père, j'ai falsifié les lettres apostoliques, et là on m'a renvoyé.
Je suis même pas sûre de savoir ce que c'est exactement qu'une lettre apostolique. Je suis un peu coincée. Alors, dans les contraintes de la religion, il y a un certain nombre de trucs qui sont liés à l'alimentation. On peut se poser la question, finalement, est-ce que ces éléments-là sont vraiment des outils de contrainte, ou est-ce que c'est la survivance de règles d'hygiène intéressantes ou de choses comme ça? On a finalement pas mal de contraintes liées à ça.
Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a des traditions, par exemple la tradition du jeûne est une très bonne tradition. Je pense qu'on a besoin de jeûner de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne, et toutes les religions prônent le jeûne. Je pense que les religions du livre sont très particulières. On parle des religions du livre, donc les religions issues de la Bible sont très particulières parce qu'elles essaient en permanence de contrôler l'esprit de leurs fidèles. Donc de créer, donc par des dogmes, mais de s'infiltrer même directement dans l'esprit des gens, par tous ces commandements sur la nourriture, les habitudes, la sexualité. Philippe parlait de la sexualité, et il est évident qu'au séminaire, on devait dormir avec les mains au-dessus des couvertures pour éviter les masturbations dont tu parlais. Donc il y a toujours ce contrôle, et je pense que le contrôle de la sexualité est une obsession des religions du livre. Parce que moi j'assimile les religions du livre aux religions de la sédentarité, c'est-à-dire que ce sont les patriarches qui prennent le relais des déesses mères. Si la religion était plutôt d'essence féminine au tout début, elle est rapidement devenue masculine, et c'est raconté ça dans les religions du livre. Et que lorsqu'on est sédentaire et qu'on crée des familles, qu'on crée des territoires, qu'on crée des propriétés, on a une obsession soi-même, c'est de transmettre sa propriété à ses enfants. Or, si les femmes sont certaines que les enfants viennent d'elles, les hommes ne le sont jamais. Et donc, ils ont mis tout un tas de contraintes, dont la chasteté, dont le fait d'arriver vierge au mariage, etc., pour que les hommes soient sûrs que ce soit leur progéniture à qui ils donnent l'héritage. Et il y a cette espèce d'obsession qui est très masculine. Je pense que les religions du livre sont très très masculines. D'ailleurs, Dieu est présenté comme un principe masculin, voire légèrement barbu sur son nuage. Il y a cette volonté de marquer le territoire, et le territoire masculin entre autres. Voilà. Donc je pense que beaucoup de règles des religions vont dans ce sens-là du patriarcat, et qui a évidemment faussé, contrairement aux religions chamaniques, par exemple, ou les religions primitives, qui sont des religions d'expérimentation, c'est-à-dire on expérimente directement, on n'a pas un dogme, hein, on est directement confronté à l'expérience. Nous, il n'y a plus d'expérience, sauf alors j'exclus les mystiques de la religion chrétienne, par exemple, ou les kabbalistes de la religion juive, ou encore les soufis de la religion musulmane, parce qu'eux revendiquent l'expérience personnelle, c'est-à-dire il ne s'agit plus de dogme, mais il s'agit de vivre une véritable spiritualité intérieure qui n'a rien à voir avec des commandements, mais juste avec l'expérience, avec le ressenti.
Mais à ce moment-là, la spiritualité passe quand même par l'expérience du corps.
Oui, elle peut passer par l'expérience du corps, mais bien sûr, mais de toute façon, les mystiques n'ont pas une aversion du corps. Enfin,
non, mais les religions... Enfin,
oui, mais je, voilà, religion c'est ça qui distinguait les religions qui sont, à mon avis, des captations matérielles de la spiritualité. C'est-à-dire, ce sont des... par exemple, vous avez le Christ. Et c'est sidérant. Si vous regardez la religion chrétienne, catholique, entre les commandements du Christ admis par l'Église, qui sont les évangiles canoniques, et ce qu'en a fait l'Église, il y a un monde d'écart. Et je ne comprends pas que les fidèles chrétiens ne se rendent pas compte à quel point il y a une différence entre les commandements du Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Il est plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Quand même, je ne comprends pas que les fidèles catholiques ne remettent pas en question les hiérarchies chrétiennes dans la mesure où elle va à l'encontre de ses propres enseignements.
Je sais plus ce que j'avais noté. J'ai perdu mes mots. Désolée. Là, je vais avoir un bug.
C'est aussi pour ça que j'ai cherché ailleurs j'aime beaucoup les enseignements de gens comme Jiddu Krishnamurti, qui dit que la vérité est un pays sans chemin, ou les enseignements du Tao Te Ching, qui sont des enseignements paradoxaux, parce que ce sont des enseignements qui ne peuvent pas tomber dans le dogme, jamais, puisque justement ils sont sans arrêt contradictoires eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, à partir du moment où on a un enseignement fermé, dogmatique, alors on peut craindre le pire pour... Et ce dogmatisme-là crée des soldats, on parlait des soldats de la foi, crée des armées de la foi, a donné les guerres de religion, a donné l'inquisition, a donné plein de choses comme ça, et c'est assez terrifiant lorsque l'on est enfermé dans un système de pensée qui ne s'ouvre plus et qui ne permet pas aux gens de vivre leurs propres expériences.
Par ailleurs, je voulais quand même dire que le mysticisme, d'une manière générale, impose des choses à son propre corps. Par exemple, je prends l'exemple des gens qui sont des religions fétichistes. Donc, il n'y a rien de plus simple, si vous voulez, par exemple, d'adorer son meuble de cuisine ou n'importe quel élément de la nature qui arrive dans un véritable fétichisme, peut se mettre à adorer n'importe quelle chose, ce verre de plastique. Donc, même là, si vous voulez, petit à petit, il se soumet lui-même à ses propres règles. D'ailleurs, tout ça entraîne, par exemple, la religion, enfin, ce qui n'est pas exactement une religion, mais enfin, les pratiques vaudou, donc qui, théoriquement, sont complètement décalées par rapport aux autres religions du livre et autres religions qui existent. Et malgré tout, c'est tout un cérémonial qui s'impose, et ça s'impose au corps. Il y a toujours, exactement, dès qu'on veut aborder l'autre versant de la connaissance du monde, c'est-à-dire vouloir savoir pourquoi on existe et donc se fier à quelque dieu que ce soit, même s'il est totalement personnel et illusoire, on arrive forcément à un moment donné à une pression qui s'exerce par la communauté sur l'individu dans tous les cas qu'il soit. Peut-être quand même que moi je reviendrai, si jamais j'avais une tentation mystique, c'est de revenir à la mythologie grecque, parce que finalement dans la mythologie grecque, il y avait quand même une très très grande liberté, étant donné que chaque dieu avait ses propres problèmes et agissait tous les uns contre les autres. Bon, ils agissaient sur les humains, ils les punissaient quelquefois, mais le grec à l'époque avait une possibilité considérable de jouer avec les dieux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient privilégier tel Jupiter, tel Neptune, tel Vulcain, au détriment des autres, et à ce moment-là, ça amenait des jalousies entre les dieux, et donc ils se préservaient d'une certaine sorte de la contrainte de la religion qui n'était pas terriblement agressive dans le détail. Bon, évidemment, il fallait s'y soumettre, et de toute façon, à l'époque, personne ne pouvait croire une seconde qu'il n'y existait pas de dieu. Et peut-être que les choses ont évolué depuis grâce à ça.
On parlait des contraintes des rites, en fait, quelque part. Est-ce que le rite qui est plus ou moins inhérent à toute religion. Est-ce que le rite est toujours une façon de se contraindre, ou est-ce que ça peut être aussi une façon de, justement, d'accéder à une certaine spiritualité, d'aller un petit peu au-delà de son corps, de sortir de là? On pense à toutes les pratiques de méditation, à toutes les, la prière, toutes ces choses-là. Finalement,
La prière, la méditation, j'ai pratiqué beaucoup la méditation, je continue d'ailleurs des fois. C'est toujours une démarche très personnelle, finalement, je pense. Le rituel ou le rite semblerait déjà plus collectif. Et j'ai rien contre le rituel collectif, parce qu'il peut effectivement amener à une forme de transcendance, pourquoi pas. Ça dépend comment il est vécu, ça dépend comment il est fait. Je suis allé au Brésil là récemment et je suis allé dans un endroit un peu particulier qui s'appelle la Badiania, et où il y a un médium spirit qui reçoit des foules, et il y a un grand rituel. Il y a des rituels permanents, et c'était très étonnant parce que moi qui ai rejeté beaucoup la religion catholique, je continue de la rejeter d'ailleurs, toujours avec cette histoire de séminaire et tout, je suis toujours resté là-dessus. Là, il y avait des gens, alors c'était un mélange, hein, le spiritisme brésilien, c'est Allan Kardec, c'est mélangé avec la religion chrétienne, etc. Donc c'est une forme de syncrétisme. Et il y avait des gens qui chantaient, des chants religieux, de façon presque enfantine, enfin. Et ça me transportait. D'un seul coup, j'étais transporté par ces chants. Je m'y attendais pas du tout, et j'entendais ces chants, je trouvais ça beau, et ça me mettait dans une émotion particulière qui me rappelait mes émotions que je ressentais enfant, quand j'entendais une sorte de chuchotement, de bruit du monde que, sur laquelle je pouvais pas mettre de nom. C'était une forme de murmure, de présence, une présence sonore, et d'un seul coup je me suis retrouvé renoué avec, j'ai renoué avec ça, et je me suis rendu compte que finalement, peu importe la religion, ce qui est important, c'est l'union de ces personnes qui chantent tous en même temps et qui créent quelque chose de très particulier qui s'appelle une forme de transcendance. Et ça m'a énormément intéressé. Donc ça fait partie des rituels collectifs, en fait, en quelque sorte, presque spontanés. C'était pas la transsubstantiation chère à l'Église ou ce genre de choses, mais d'un seul coup, moi, j'étais transporté et je me retrouvais dans ces émotions que j'avais ressenties enfant.
On peut dire d'ailleurs du fait qu'il y a quand même une décrudescence considérable de la religion catholique et du nombre de fidèles qui suivent attentivement la messe. Par exemple, moi, dans mon petit village du Crotoy, où je vais très souvent, dans le temps, je me souviens avoir été le parrain d'un jeune homme, et il y avait un prêtre dans l'église, etc. Bon, maintenant, il n'y a plus personne, il y a une messe tous les trois mois, donc on voit quand même qu'il y a une déperdition. Alors, je pense qu'il y a, de ce fait, et pour relier ce que disait Pierre, c'est le fait que la musique a pris une importance considérable dans notre monde actuel. Par exemple, quand on voit ce qui peut se produire, d'abord les premiers grands festivals qu'il y a pu y avoir, ou dans lesquels il y a 40 000 personnes qui adorent pratiquement un chanteur, un groupe de chanteurs. Moi, je suis absolument stupéfait de voir des salles de 20 000 personnes acclamer un chanteur ou une chanteuse. Ça me paraît quand même une espèce de phénomène un peu mystique, parce qu'il y a une espèce d'adéquation du corps de tous les gens de la salle, uniquement par les bras, par les cris, par les accompagnements sonores, par les chants, quelque chose qui est de l'ordre du religieux, indéniablement. Bon, si, même si les gens n'ont pas du tout l'impression qu'ils traversent une crise mystique, il y a quand même quelque chose dans cette espèce de rassemblement considérable du développement prodigieux de la musique dans le corps social, quelque chose qui est de l'ordre du religieux et qui remplace un peu, finalement, la déperdition de la fréquentation des lieux de culte.
Donc, en fait, on trouve d'autres façons de communier.
Est-ce que ça voudrait dire, Philippe, qu'on a besoin de réenchantement du monde, que, que l'être humain ne vit pas sans enchantement d'une façon ou d'une autre ?
Oui, je pense qu'indéniablement, à partir du moment où on est devant l'absurdité du monde, étant donné que si on ne croit pas en Dieu, donc on est obligé de se dire pourquoi ce monde existe. Donc peut-être que justement, à travers cette espèce d'extase physique qui est auto-provoquée, on peut obtenir une adéquation au monde. Cette adéquation au monde, elle n'est pas nécessairement évidente. Donc, finalement, dans la vie de tous les jours, il y a un tel rituel entre le petit déjeuner, le travail, le dîner, le coucher, et l'espèce de répétition inaltérable des gestes quotidiens. Il faut absolument arriver à se transcender soi-même. Donc, pour se transcender soi-même, il faut trouver des solutions. Je pense d'ailleurs que la musique peut-être en est une, comme la lecture ou comme le travail artistique. Je pense que quand même, par exemple, moi qui ai expérimenté la peinture pendant un certain nombre d'années, il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'on s'abstrait complètement de soi-même. C'est-à-dire que si vous prenez une toile le matin et que vous avez un travail vraiment assez complexe à accomplir, le cerveau se vide complètement et on est dans la peinture. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se retrouver sans avoir déjeuné de la journée, après 8 heures de travail, et tout d'un coup, on se renaît au monde et on a traversé une espèce de crise de méditation, non pas transcendantale, mais de méditation physique par rapport à l'acte plastique qui est celui de la peinture. Donc je crois quand même que de toute façon, même si on adhère à aucune religion, on a toujours une tentative obligatoirement de se tourner vers quelque chose qui vous amène un peu au-delà de vous-même et au-delà du quotidien qui est quand même assez quelquefois assourdissant dans sa répétition permanente.
Oui, j'ai vécu exactement la même expérience que tu décris là, c'est-à-dire je me suis mis à la peinture à un moment et je pouvais pas effectivement me lever à 3h du matin pour peindre jusqu'à 3h encore sans manger, dans une sorte d'expérience mystique effectivement de la peinture où tu es dans les couleurs, dans le pinceau, et il n'y a rien d'autre qui compte. Par rapport à ce que tu dis, moi j'ai l'impression qu'on a cette espèce d'aspiration. Alors on parle d'enchantement, ce à quoi répond la fantaisie d'ailleurs comme genre littéraire, c'est-à-dire cette tentative de réenchanter le monde d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de remettre un peu de magie là où elle a disparu. Et j'interprète cette aspiration presque naturelle de l'homme à l'aspiration spirituelle. Et j'y reviens. Et c'est là-dessus que s'installent les religions. C'est cette aspiration à l'enchantement, à la spiritualité réelle, c'est-à-dire l'expérience mystique directe, non formatée par un dogme ou par un commandement ou par une quelconque pratique. Donc c'est cette aspiration directe, c'est là que la religion se place pour la capter et dire voilà comment vous devez penser. Et d'un seul coup, on oublie l'expérience directe pour passer au dogmatisme, au commandement. Par exemple, reprenons le personnage du Christ, reprenons le personnage de tous les prophètes qui ont traversé les âges et qui ont amené une vision différente du chemin spirituel. Déjà, la génération suivante, c'est celle des disciples, commence à complètement détourner le message du prophète parce qu'elle n'expérimente pas elle-même et que n'expérimentant pas, elle est obligée de le compenser par les mots, donc par le dôme, le commandement, disant il faut penser comme ça parce que le prophète a pensé comme ça. Et je pense que c'est l'essence des religions. C'est-à-dire que beaucoup de religions, toutes les religions, dogmatiques, je parle des religions du livre parce que peut-être que sur l'hindouisme c'est différent, bien que maintenant il y ait du nationalisme hindou qui est complètement absurde parce que par rapport à la religion, c'est incompréhensible. Bon, enfin, si, c'est compréhensible, mais c'est pas souhaitable en tout cas. Donc, il y a ce passage-là de l'expérience directe au commandement qui, je pense, fait le malheur de l'humanité.
Les religions, finalement, là, telle qu'on en parle, c'est forcément de la contrainte, du contrôle, une tentative de gérer les gens, de les cadrer. Quand même, au départ, on est aussi sur donner de l'espoir, sur essayer de... finalement, d'apporter quelque chose, de créer une communauté, de faire des choses comme ça. Est-ce que les religions servent uniquement à prendre le pouvoir sur les gens ?
Ben c'est ce qu'on tape dans l'histoire. La religion chrétienne, d'abord, est une religion d'opprimés, une religion de martyrs, qui devient dominante sous Constantin, qui prend le pouvoir, qui devient un truc politique. D'ailleurs, on appelle l'Église romaine, comme si elle s'était établie sur les ruines de Rome, et qu'elle avait reproduit l'Empire romain à sa façon.
Mais elle commence plutôt...
Il se trouve qu'effectivement, quand on regarde les religions, quand on voit l'évolution des religions, elles finissent par prendre le pouvoir, elles finissent par s'imposer comme système de pensée référent, et uniquement celui-là...
Mais ce n'est pas comme ça qu'elles commencent.
Non, ce n'est pas comme ça. C'est ce que je disais, c'est cette différence entre le prophète, c'est-à-dire le fondateur, et il n'est même pas... Je veux dire, le Christ n'était pas chrétien. Hein. Il était le Christ, quoi. Donc, c'est après qu'on en fait un concept, parce que simplement, on n'expérimente pas nous-mêmes. On n'a pas l'expérience du prophète direct, donc on est obligé de compenser par les mots. Et dès qu'on compense par les mots, dès qu'on nomme les choses, dès qu'on veut imposer une expérience à quelqu'un, alors on devient dogmatique, on devient oppressant et on prend le pouvoir systématiquement. Saint Paul déjà prend le pouvoir dans ses épîtres, il prend le pouvoir. Il donne des commandements, il dit il faut faire ceci, il faut que les femmes se voilent, il faut que ce... Vous voyez, c'est... Ouais. Mais c'est la génération suivante quasiment du Christ, 50, 70 ans après, mais c'est très très proche.
Oui, par ailleurs, il y a aussi, comme pression sur le corps, quelque chose qui est fondamentalement d'actualité, c'est la pédophilie chez les prêtres. Quand même, c'est une chose que j'ai expérimentée personnellement.
De même.
Oui, c'est absolument effrayant, cette espèce de... Le célibat des prêtres, c'est déjà... théoriquement, c'est une vocation exceptionnelle qui devrait transcender l'être humain et donc s'abstenir absolument de tout rapport sexuel avec qui que ce soit. Et là, on peut dire qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'on le dénonce de plus en plus, la pédophilie règne en maître dans l'Église catholique, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Italie, que partout, et en particulier dans les écoles religieuses. Et là, je dois dire que plusieurs fois, j'ai été obligé de réprimander des prêtres qui s'abstenaient de garder un contrôle par rapport à moi. Mais par exemple, je voyais dans certaines écoles religieuses, véritablement, certains prêtres organisaient des espèces de petites congrégations dans lesquelles se passaient des masturbations mutuelles, des caresses, des fellations. Moi, j'étais dans une église, dans un collège très, très très chic qui s'appelle Saint-Martin de Pontoise. Et donc, c'était réparti en différents pavillons dans un grand jardin. Et donc, il y avait des petites maisons dans lesquelles les prêtres étaient. Et le soir, on voyait, une fois que tout le monde était éteint, des rassemblements absolument épouvantables. Enfin, sur le plan de l'influence que pouvait avoir sur des petites âmes fragiles, cette relation dont les gens, par la suite, portent des marques indélébiles. Et ça, je dois dire que, personnellement, c'est quelque chose qui m'a très rapidement éloigné de l'Église catholique, parce que de penser que des gens qui portaient Dieu en eux étaient capables de telles abominations, je crois que c'est quelque chose qui marque à jamais un esprit enfantin.
Oui. Effectivement, les religions contrôlent particulièrement la sexualité, donc pour les raisons de patriarcat que Pierre évoquait plus tôt. Il y a aussi tous les contrôles sur l'avortement, l'interdiction finalement de disposer de son propre corps de la façon dont on le souhaite. Alors là, pour le coup, Pierre, est-ce que les autres religions, les religions hors du livre que tu connais ou les spiritualités que tu connais, aurait ce même genre de contrôle ou de recherche, en tout cas, du contrôle sur, finalement, qui a le droit de faire quoi ?
Oui, parce que ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au nationalisme hindou, par exemple, où évidemment l'enjeu est politique, c'est le contrôle du pays, c'est le contrôle de certaines pratiques, certaines valeurs. Par exemple, maintenant, il y a des milices hindoues qui se créent et qui vont massacrer ou terroriser, en tout cas, les gens mangeurs de vaches. Donc les musulmans, entre autres, parce qu'ils mangent du bœuf. Et donc, alors que cette religion, enfin, quand on lit les Upanishads, ça n'a rien à voir avec ça. Apparemment, toute religion, enfin les religions, même les orientales, qui pourtant sont paradoxales, qui ne sont pas basées sur un dogme, mais sur des écrits qu'on peut interpréter de différentes façons, sont exactement pareilles maintenant, dans le sens où elles cherchent à contrôler et à mettre leur propre pion au pouvoir. Donc, effectivement, tout en Inde, voilà, la condition féminine est devenue catastrophique, une des plus catastrophiques au monde. On est sur un mauvais chemin des religions à partir du moment où elles deviennent dominantes, elles deviennent politiques, elles deviennent sociales. Ce n'est plus l'expérience personnelle qui compte, ce n'est plus l'expérience mystique, ce n'est plus l'expérience, la relation directe avec le divin. C'est juste une arme au service de certains.
Alors du coup, est-ce que c'est une tendance religieuse ou est-ce que c'est juste une tendance humaine ? De vouloir contrôler, de vouloir maîtriser, de passer dans toutes les petites choses finalement pour prendre le pouvoir.
C'est une tendance humaine. C'est une tendance humaine, je pense. Et c'est d'autant plus dangereux avec la religion que la religion est puissante à cause de cette aspiration spirituelle dont on parlait au départ. Enfin, à cause de ce besoin presque physique, presque vital de transcendance dont on parlait au départ. Et je pense que cette captation-là. Regardez, je pense par exemple le djihadisme. Qui fait peur à tout le monde en Europe actuellement et dans le monde occidental, j'ai l'impression que c'est une réponse directe au matérialisme. C'est-à-dire que l'option matérialiste, pour moi, elle est désespérante. Enfin, quand je regarde ce que peut m'apporter le matérialisme, je ne parle pas de l'athéisme, ce genre de choses, je parle de la possession matérielle en tant que vecteur de bonheur. C'est-à-dire, plus je possède, plus je suis heureux. Ça ne fonctionne pas. On le sait, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, on le saurait depuis la nuit des temps, les gens riches seraient heureux, et ce n'est pas le cas. Donc le matérialisme pur ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'identification à notre corps et à nos possessions n'amène aucune forme de bonheur. Elle peut amener des satisfactions provisoires, mais aussi énormément de peur. Regardez la fable du savetier et du financier de La Fontaine. Elle est assez éclairante à ce niveau-là.
Tu peux me la résumer parce que je ne l'ai pas, celle-là.
C'est un banquier qui ne dort pas parce qu'il est toujours avec les soucis d'argent en permanence. Et puis, il entend un savetier qui siffle toute la journée en bas de sa maison. Et il va voir le savetier et lui dit « T'as l'air joyeux et tout, moi je ne suis pas joyeux. Et si tu veux bien qu'on échange nos métiers ?» Et donc, ils échangent leur métier. Et au bout de quelques jours, le savetier revient voir le financier en disant « Moi, je reprends mon métier de savetier. Je ne veux plus de métier de financier. » voilà, parce que c'est la vision matérialiste du bonheur ne fonctionne pas. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Du coup...
Les religions sont plus puissantes, enfin plus dangereuses parce qu'il y a une recherche de spiritualité.
Voilà, alors cette espèce de captation de spiritualité fait que... Alors oui, je parlais du djihadisme, et donc c'était le pendant au matérialisme pur et dur qui est actuellement la règle dans nos sociétés, parce qu'il y a une désespérance derrière ça, il y a une désespérance. Et en plus, si ces gens à qui on propose le bonheur publicitaire n'y ont pas accès pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont stigmatisés, parce qu'ils vivent dans des endroits non privilégiés, etc., alors ils vont avoir tendance à prêter l'oreille à des discours extrémistes où ils pourront se sentir importants et où il y aura cette captation de leur aspiration profonde. Et là, on peut faire des fanatiques. Et toutes les religions ont produit des fanatiques à leur époque. Les chrétiens ont été fanatiques, les musulmans ont été fanatiques, les juifs ont été fanatiques, toutes les religions du livre ont été fanatiques à un moment ou à un autre, parce qu'il y a cette captation spirituelle poussée à outrance, crée des soldats terrifiants.
Tous les courants politiques aussi créent des fanatiques.
Les courants politiques ?
Les courants politiques aussi créent des fanatiques.
Pas de la même façon. Je pense que ceux qui acceptent de mourir, de se faire exploser, c'est très rare qu'il y ait... que le politique réussisse. Il y a eu Yann Palach, il y a quelques exemples comme ça dans l'histoire, mais les kamikazes, bon, mais c'est très rare que massivement on pousse les gens à se sacrifier.
Ceci dit, il me semble bien que c'est dans un livre à toi qu'il y a des gens qui se suicident et puis ensuite on vend le suicide au plus offrant. Dans l'Évangile du Serpent ou dans un des suivants, je crois, dans cette trilogie-là. Effectivement, il y a quelqu'un qui est instrumentalisé pour se suicider et et ensuite la revendication finalement de la cause pour laquelle il se serait suicidé, c'est une autre transaction.
Oui, je ne sais plus exactement de cette scène, mais ça me dit vaguement quelque chose.
Moi, ça m'a marqué.
Effectivement, dans la trilogie des prophéties, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, la trilogie est une réflexion sur le poids des religions dans le monde, jusqu'où elle peut emmener le monde. Elle peut l'emmener très loin dans la destruction. Les différents courants qui sont actuellement qui traversent le monde. Alors, par exemple, vous avez le courant évangélique, qui est extrêmement puissant, assez méconnu, mais extrêmement puissant. Qui, je pense, n'est pas pour rien dans l'accession de Bolsonaro au pouvoir au Brésil. Cette tentative de contrôle des populations par la religion se poursuit de façon encore plus évidente qu'avant, comme s'il y avait une sorte d'urgence à contrôler le monde pour installer ses propres valeurs.
Oui, je veux dire que j'ai essayé, dans un de mes premiers romans, qui s'appelle Le ressac de l'espace, justement, de montrer, pousser jusqu'à l'absurdité, comment pouvait changer l'esprit des gens à travers l'imposition de quelque chose qui n'est pas exactement une religion. C'est-à-dire que ce sont les extraterrestres, n'est-ce pas, qui ont besoin de serviteurs pour exister, parce que sont des boules qui ne peuvent pas se mouvoir par elles-mêmes. Donc, ils arrivent sur Terre et finalement, ce sont pour la première fois des extraterrestres qui ne sont pas combatifs ni méchants. Simplement, ils entrent en symbiose avec la population. Petit à petit, donc, ils gagnent l'ensemble de la population humaine et donc il y a des échanges télépathiques. La population humaine est totalement pacifiée. Elle devient heureuse. Elle n'est pas soumise, mais elle est en corrélation avec ces êtres qui s'appellent les Tzalk. Et finalement, on se rend compte que petit à petit, malgré tout, malgré cette espèce de bonheur étrange que ces extraterrestres amènent sur la population humaine, qu'ils l'unifient, qu'ils la planifient, qu'ils lui proposent des jeux, qu'ils lui offrent l'extase à travers des échanges télépathiques merveilleux. Petit à petit, malgré tout, sous cette pression qui n'est pas une pression, puisque théoriquement c'est un bonheur collatéral, il y a tout d'un coup un groupe d'êtres humains qui refuse cette soumission et qui donc va se révolter contre le bonheur.
Ça a l'air d'être... J'ai l'impression que c'est un truc un peu récurrent dans la science-fiction, le concept que le bonheur absolu est donné à tout le monde, c'est probablement un truc dangereux et ça cache un truc.
Bah, l'utopie se transforme souvent en dystopie. Bonheur pour tous, ça ne peut pas fonctionner, on le sait. Ça, il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire, dont la Révolution française fait partie. C'est une définition d'un nouvel être et de nouveaux rituels. Et le bonheur pour tous, c'est fini en massacre en général. Donc, ça, c'est connu. Tout système de pensée qui se ferme à un moment devient dangereux pour l'humanité. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir sur la façon d'ouvrir en permanence les systèmes de pensée, de les démanteler en permanence, parce qu'ils ont tendance à se remettre en place sans cesse. On parlait du politique, du religieux, tout ça sur les mêmes modèles. Regardez le communisme, regardez le nazisme, regardez tous ces noms en isme, ce sont des systèmes de pensée qui se sont inspiré à un moment des mêmes... par exemple, la ferme des animaux d'Orwell était magnifique pour ça, parce que c'est vraiment un mécanisme de pensée qui se met en place et qui finit par détruire complètement. Donc c'est ça, c'est essayer de repérer où un mécanisme de pensée se met en place et comment ce mécanisme de pensée va essayer de broyer l'individu et donc retrouver à l'intérieur du système de pensée sa propre liberté, sa propre individualité qui ne fonctionne que si on repère ce système de pensée.
De toute façon, toute idéologie renferme sa propre destruction, puisqu'à partir du moment où elle dégage par rapport à un idéal qui théoriquement devrait séduire toute la population du monde, finalement, petit à petit, se dégagent des impératifs qui sont contraires à un certain nombre de gens. Donc il y a des mouvements de foule, et pour réprimer ces mouvements de foule, immédiatement, une sorte de dictature secrète s'impose. On a bien vu d'ailleurs avec l'histoire de l'URSS, cette évolution considérable par rapport à une idéologie qui au départ était totalement euphorisante pour l'ensemble de l'humanité. Et je crois que là, il y a toujours un problème. C'est pour ça donc que j'ai voulu faire une véritable utopie dans un petit roman que je viens de faire paraître qui s'appelle « Un souvenir de Loti », dans lequel l'utopie, elle est basée, donc ça se passe sur une planète artificielle créée par un dieu qui n'existe pas, qui s'appelle Mandrake. Et là, c'est la révolution permanente. C'est-à-dire que le problème d'une utopie ne peut se réaliser qu'à travers, d'une part, une grande sensualité entre les êtres, donc aucun interdit sur le plan sensuel, et par ailleurs, une révolution permanente et pacifique, c'est-à-dire que chacun peut se remettre en question en permanence et pouvoir échanger avec les autres et progresser avec les autres. On peut parvenir, si on s'abstrait complètement de ces intérêts matérialistes justement dont tu parlais, pour arriver à connaître l'autre, à vivre avec l'autre, à se pencher vers ses problèmes, donc qui est quand même un peu l'idéal stirnérien, c'est-à-dire le fait que tout individu a un pouvoir sans limite sur le monde, mais sa limite, c'est celle de l'autre. Et donc, à partir du moment où il y a des rencontres qui se passent sous ce système de rapprochement des idées entre les hommes et entre les femmes, il y a une possibilité d'utopie. Bon, je pense que pour l'instant, vu l'abomination que peut être l'être humain, à mon avis, qui est quand même prouvé chaque jour par les crimes, par les guerres, les massacres qui se produisent en permanence. Je pense d'ailleurs que quelquefois la religion vient aussi peut-être de cette idée de s'échapper de cette espèce de malédiction qui est celle de l'être humain dans son obscénité par rapport à la vie, et qui est quand même quelque chose d'assez tragique et qui n'a pas tellement progressé depuis la nuit des temps.
C'est vrai que la religion semblerait arriver pour essayer d'échapper à la malédiction dont tu parles, mais elle recrée de la malédiction de la même façon, voire pire. Et c'est ça le problème des religions.
Bah, je ne sais plus où j'ai lu ça. Sinon, ça doit être quelqu'un qui me l'a dit. Une réflexion qui revient de temps en temps, c'est « Mais si t'es athée, d'où vient ton sens moral, en gros hein ?» C'est quelque chose que j'ai déjà entendu.
C'est-à-dire que ça ne pose aucun problème si on a un sens moral, qu'on soit athée ou qu'on soit de n'importe quelle religion, on l'a. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui est totalement intérieur à soi-même. À partir du moment où on se fixe des règles, dont celles que je viens de définir, je ne dis pas que je suis un être parfait, hein, non, ça, très loin de moi.
Ah, c'est décevant. Hein.
Mais je pense que quand même, petit à petit, d'ailleurs, au début, quand j'étais très jeune, je n'avais aucun sens moral. Je crois dire que vraiment, j'ai failli même me précipiter dans la délinquance, puisque j'étais complètement débarrassé de toute contrainte religieuse qui me fixait les objectifs de maintien de moi-même par rapport aux autres. Donc, petit à petit, je me suis forgé un sens moral qui n'est pas absolument parfait, mais qui quand même est le fruit d'une longue réflexion, 90 ans de réflexion. Ça peut quand même vous amener un jour à penser soi-même qu'on peut avoir des règles qu'on s'impose et les, et les appliquer de la manière la plus équitable possible. Mais je voulais raconter une petite histoire qui est assez amusante à propos, par exemple, de l'interdit du paradis. Le paradis, donc, chez les musulmans, c'est donc 30 vierges qui vous attendent au paradis. Et donc, une fois, j'ai eu une amie qui m'a dit « Quelle horreur ! Quand je vais arriver, je vais avoir 30 jouvenceaux qui vont m'attendre, j'en ai vraiment pas envie.
Bon, je pense que le temps avance. Et donc, voilà, je vois qu'il y a des questions dans la salle. Il y a des mains qui se lèvent. Alors, est-ce qu'on a un micro ? Oui, le micro approche.
Bonjour. Pardon. Merci pour cette table ronde, c'est très intéressant. Il me semble qu'on a beaucoup exploré le côté sombre de la force, là, de la religion, et peut-être qu'on pourrait se quitter sur une note un peu plus lumineuse, parce qu'il y a forcément un côté lumineux dans la force aussi. Et puisqu'on est aux Utopiales, il me semble, moi personnellement, j'ai eu la chance de ne pas naître dans une famille religieuse. Donc j'ai lu mon premier livre de science-fiction à 10 ans. Je me suis toujours senti mystique, je le suis toujours, j'en ai 60 aujourd'hui. Et moi, le lien avec la religion ou le mysticisme et la science-fiction est tellement évident. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve qu'au fil des décennies, la spiritualité est de plus en plus présente dans la science-fiction. Et pour moi, c'est ma religion, la science-fiction. Donc, religion, ça vient de religare, ça veut dire relier. Et je trouve que nous tous ici, on est reliés par cette religion, la science-fiction. Et il suffit de parler avec quelqu'un qui a lu les mêmes bouquins que nous, que ce soit Dune, Hyperion ou un cycle comme ça, et on est complètement transcendé en fait par le genre. Et pour moi, ça, c'est le côté lumineux justement de la science-fiction et de la religion aussi, pourquoi pas après tout.
Je croyais que je faisais plus partie d'une religion, mais là, je m'aperçois que je suis non seulement adhérent, mais quasiment un prêtre.
Un grand prêtre.
Ça fout les boules quand même. oui, mais je suis d'accord avec vous sur le côté mystique de la science-fiction qu'on retrouve dans Dune, dans Hyperion, dans plein de livres. En Terre étrangère de Robert Heinlein, Demain les chiens de Simac, il y a plein de livres. Parce que je pense que la science-fiction étant, un reflet de la vie, eh bien, elle parle aussi des aspirations mystiques de l'homme, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis persuadé, peut-être que j'ai tort, en tout cas, c'est la voie qui me plaît d'explorer, que l'homme a une aspiration spirituelle, voire divine, et que la science-fiction reflète forcément ça d'une façon ou d'une autre, et la fantaisie aussi. Et puis, c'est vrai qu'on parle une sorte de langage commun qui est très agréable. Les échanges sont plutôt agréables. On peut débattre. Il y a aussi, je pense, un grand respect entre auteurs, lecteurs dans le milieu de la science-fiction. Il y a un grand respect entre les auteurs du genre. Je pense que, ayant fréquenté plusieurs milieux littéraires, je pense que le milieu de l'imaginaire littéraire est vraiment un milieu ouvert, accessible, sympathique, où il y a très peu de conflits ou de jalousie.
Voilà. On parle de la France, là ?
Oui, il y en a bien quelques-unes un peu, sûrement, mais il ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est un milieu dans lequel je me suis toujours senti bien, parce que les échanges étaient, effectivement, on parle un langage commun, et que les échanges étaient féconds immédiatement, nombreux, variés, super intéressants, ouais, c'est vrai.
Oui, parce qu'on a parlé, on n'a pas parlé du tout des sectes, qui est quand même quelque chose de très important par rapport à les religions. C'est-à-dire que, quelquefois, la science-fiction, les gens qui y participent ont tendance à se réunir en sectes. Sauf que c'est une des rares sectes où il n'y a pas de gourou, en général. Il y a une espèce de consensus général par rapport... On est tous mélangés, on est tous fraternels. Dans l'ensemble, je pense que c'est un monde sectaire, mais parce que quand même, il y a des petits groupes qui s'isolent les uns des autres. C'est peut-être d'ailleurs un des grands drames de la science-fiction, c'est cette espèce de se refermer sur elle-même et d'empêcher son expansion telle qu'elle a pu exister. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à écrire, il y a eu un prodigieux développement. Il y a eu des articles dans les journaux, partout, dans les années 50, 60. ça a été un véritable miracle. On a véritablement, les gens ont eu l'impression de retrouver une littérature différente qui apportait des solutions différentes au travail de l'écrivain. Et là, tout d'un coup, il y a eu vraiment des romans qui se vendaient à 100 000, 150 000 exemplaires, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que je pense que la science-fiction s'est un peu refermée sur elle-même et que certains livres, bon, personnellement, je suis pour une littérature à plein temps, c'est-à-dire vraiment que le style soit la maîtrise absolue du récit. Et donc, quelquefois, évidemment, quand on développe un style assez particulier, on peut quelquefois obtenir une espèce des gens qui sont réfractaires à cet excès de style. Mais par ailleurs, je pense quand même qu'il y a quelque chose de très étrange dans la science-fiction, c'est que, par exemple, il n'y a jamais eu de communicant. Enfin, je parle de la science-fiction française que je connais bien. Il n'y a jamais eu des communicants, il n'y a jamais eu de gourous, il n'y a jamais eu de possibilité véritablement de faire une sorte de mission par rapport à... Il n'y a pas de missionnaire de la science-fiction. Et les auteurs sont les auteurs, les amateurs sont les amateurs, mais personne ne va aller chercher à convertir quelqu'un à la science-fiction. Donc, je me souviens très bien quand on a ouvert la première librairie de la Balance en 1953, donc avec Valérie Schmitt qui était... mon alter ego. Donc on alpaguait les gens dans la rue, on leur disait vous connaissez la science-fiction? Alors non, pas du tout. Enfin, comme c'est quelque chose qui venait de naître, un nom qui venait d'apparaître dans l'univers de la littérature. Et là, donc on les amenait, on leur disait mais qu'est-ce que vous aimez? Proust, Balzac, etc. Et on essayait de trouver des équivalences entre des romans de littérature générale et des romans de science-fiction qui paraissaient à l'époque. Et c'était absolument radical. À chaque fois, la personne qui partait avec un livre qu'on lui avait donné, on ne la revoyait plus jamais.
En tout cas, comme c'est un genre qui brasse énormément d'idées, qui réfléchit en permanence, c'est difficile d'instaurer des dogmes ou des commandements, puisque c'est remis en cause en permanence par les nouveaux bouquins, les nouveaux auteurs. C'est une réflexion permanente, la science-fiction. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un genre qui bouge en permanence.
Mais c'est vrai que c'est autour de ce genre-là qu'on se retrouve aussi. Il y avait une autre question par là.
Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Curvel tout à l'heure par rapport au fait que la religion recule aujourd'hui, du moins en France, ce qui est dû, à mon avis, à une augmentation du niveau d'éducation. Mais je me disais, dans l'avenir, qui est quand même de plus en plus incertain, entre le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc., est-ce que les gens, par peur, ne risquent pas de se retourner vers la religion et qu'on risque d'avoir un retour en fait, des religions en France? Et si oui, est-ce qu'à votre avis, c'est dangereux ou pas?
C'est-à-dire, on voit, par exemple, normalement... De par le fait qu'il y ait cette radicalisation islamique devrait lever dans les anciens catholiques qui dormants, qui existent par milliers, par centaines de milliers, donc théoriquement devrait réveiller la religion catholique qui devrait répondre d'une manière plus intense et plus violente à ces assauts d'une religion musulmane qui serait envahissante sous un certain angle. Je ne tiens pas du tout à généraliser le problème, mais on voit que ça ne produit absolument aucun résultat, ni aucun réveil de la religion catholique, cette espèce de menace d'un islam radical qui voudrait imposer sa loi de la charia sur le monde occidental. Normalement, ça devrait complètement changer les choses. On voit d'ailleurs en plus l'évolution depuis Vatican II, donc, où il y a eu quelques décisions qui ont été prises en ce qui concerne la religion catholique. On voit par exemple qu'il y a un manque d'évolution absolue. Donc le dernier pape François, qu'on voyait très bien arriver dans un premier temps comme un libérateur de la religion, qui a concédé quelque chose apparemment, finalement revient à des dictats absolus sur l'avortement. Il a dit qu'un avortement, c'est pratiquement un terroriste qui rentre chez vous. Donc c'est des déclarations absolument épouvantables qui ne peuvent absolument pas, par rapport au monde contemporain où la liberté de penser est quand même beaucoup plus grande qu'elle ne l'a été auparavant, que le confort général de l'individu sur le plan social s'est amélioré aussi considérablement en un siècle. Donc on voit très mal que cette espèce de doctrine qui revient par ce pape qui théoriquement devrait être libérateur, qui devrait supprimer le célibat des prêtres, qui devrait permettre l'avortement dans certaines conditions, tout au moins changer. La seule chose qu'il ait réussi à changer, c'est changer la messe française de latin en français, qui, à mon avis, lui retire une grande part de son mystère.
Pour répondre à votre question, moi, je pense que le mouvement est amorcé. Et je pense que dans les périodes d'incertitude, ce sont les prêts-à-penser les plus radicaux qui ont le plus de succès. Et je pense que le pape François dont parle Philippe, c'est très bien ce qu'il fait en revenant en arrière, c'est en radicalisant l'Église pour que les gens qui soient effrayés ou inquiétés par la situation actuelle reviennent à des systèmes de pensée radicaux dans lesquels ils se sentiront assez en sécurité. Parce que plus la pensée est radicale et plus on a l'impression qu'à l'intérieur de cette pensée, on est en sécurité. Et je pense que le mouvement est amorcé. On a son pendant politique qui est celui de monter d'extrême droite un peu partout dans le monde, de façon, y compris chez les Nordiques, qui n'ont pas spécialement des problèmes d'immigration ou ce genre de choses. Et je pense que c'est en train de se produire tranquillement et que on risque un jour de s'apercevoir que finalement, beaucoup de gens se sont radicalisés dans la religion ou dans un autre système de pensée aussi radical. Pas pour se sentir à l'abri, en quelque sorte. C'est cette espèce d'instinct grégaire. On va se réfugier dans quelque chose qu'on connaît, au moins, avec des certitudes absolues, parce que ça évite d'avoir peur de l'avenir.
Oui, ouais. Je suis d'accord que ce parallèle est intéressant, mais malgré tout, tout cela ne pourra s'appliquer que sur des gens qui sont déjà plus ou moins convaincus. Je ne vois pas tellement qu'il y ait une expansion, parce que par rapport au corps social en général, on peut dire qu'il y a une telle modification du corps social que la façon de vivre des gens a tellement évolué dans leur liberté quotidienne que cette radicalisation devra peut-être s'exercer sur certains individus, mais je ne crois pas qu'elle puisse favoriser une expansion de la religion.
Ce qui est intéressant, je parlais des évangéliques tout à l'heure, c'est le terrain qu'ils gagnent en Afrique, en Amérique du Sud. Un petit peu partout, ce sont des chrétiens quand même, ils sont beaucoup plus offensifs et beaucoup plus radicaux que d'autres. Ça fait tache d'huile un peu. C'est vrai qu'on est peut-être moins touché notre continent pour l'instant parce que les problèmes sont peut-être moins aigus. Mais oui, si la peur continue, si parler de réchauffement climatique, le besoin constant de surveillance, on réclame des caméras de surveillance partout, on est là. Là, il y a, à mon avis, un risque majeur d'adhésion presque collective à des valeurs beaucoup plus radicales. Ouais.
On est arrivé à la fin du temps alloué à la conférence. Pour les autres questions et pour continuer la conversation, Philippe et Pierre vont être en dédicace là tout de suite à la librairie. Merci à tous pour votre présence. Merci Pierre, merci Philippe.